Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés, seringue à la main pour nous faire du bien. Non, je plaisante, c'est parce que juste avant de venir, vous étiez en train de vacciner des gens contre le Covid. Donc, vous avez lâché la seringue, mais vous êtes là.
Voilà, très bien résumé. Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
J'aime bien contextualiser comme ça qu'on comprenne hein, d'où vous arrivez.
Voilà. Les auditeurs veulent savoir.
Voilà, très bien. Allez, au sommaire aujourd'hui. Notre grand dossier du jour sera consacré à un sujet un peu tabou, mais comme vous le savez, dans cette émission, il n'y en a aucun de sujet tabou. Alors, un grand dossier consacré aux fuites urinaires chez les femmes. Quelle est la fréquence de ce problème? À partir de quand faut-il consulter? Et comment ça se traite? Parce que oui, c'est tout à fait possible. Ça se traite tout autant d'ailleurs que le prolapsus, la descente d'organes, dont on parlera aussi. Et c'est ce que nous détaillera notre invité, le docteur Yannick Rouach. Il est chirurgien urologue à l'hôpital privé d'Antony. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous ferons un zoom cet après-midi sur l'asthénie, communément appelée fatigue. C'est un symptôme très fréquent mais qui devient anormal lorsqu'il perdure malgré le sommeil et le repos. Le docteur Jimmy Mohamed, jamais fatigué, lui nous dira ce qu'il faut savoir sur le sujet bien sûr. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous donnera le bon mode d'emploi, enfin s'il y en a un, pour débusquer l'âme sœur sur les applis de rencontre.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921. Et donc on va démarrer aujourd'hui par cette question d'Anissa qui vit à Paris. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'avais une question pour vous. On nous parle souvent des fréquences cardiaques au repos. Vous voulez avoir un peu plus d'informations, savoir comment on faisait pour nous les calculer, si on pouvait les calculer de nous-mêmes ou pas. Donc voilà, je vous laisse nous répondre et avoir une petite info là-dessus. Merci.
Bon, c'était pas Aymeric, c'était pas Anissa, c'était Aymeric. Hein. Merci donc pour les petites fiches. Petite erreur, ça arrive. Jimmy, c'est une bonne question. Hein. D'abord, c'est quoi finalement la fréquence cardiaque au repos, précisément, dont on parle souvent finalement?
Alors, la fréquence cardiaque, c'est extrêmement simple. C'est le nombre de battements par minute qu'on peut avoir au niveau du cœur. Alors, d'une façon normale, le cœur doit battre entre 100 et 50 par minute, ou plutôt entre 50 et 100 par minute. Au-delà de 100, ça définit ce qu'on appelle la tachycardie. Et en dessous de 50 par minute, c'est ce qu'on appelle la bradycardie. Et donc, vous devez être compris entre ces fourchettes-là. Mais attention, vous avez vu qu'il y a une grande différence entre 50 et 100. Donc, il y a des petites subtilités.
Alors, si on dit fréquence cardiaque au repos, c'est qu'il y en a une autre qui est en activité, du coup, j'imagine?
Alors, la fréquence cardiaque, elle est sous la dépendance d'un système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome, qui va réguler cette fréquence cardiaque. Et donc, on n'a pas d'action, nous, directe pour l'accélérer ou la ralentir. En revanche, il y a des choses qui vont faire battre votre cœur plus rapidement. Le fait d'être stressé, les émotions, la douleur, la fatigue, certains excitants comme le café ou des drogues ou certains médicaments. Et donc, elle va varier au cours de la journée et en fonction de ce que vous faites.
Alors, comment on peut la mesurer, comme le demande Aymeric?
Alors, très simplement, la première chose, la plus simple, c'est d'avoir une petite montre qui permet justement de calculer cette fréquence cardiaque automatiquement. Sur les tensiomètres électroniques, vous avez le chiffre de la tension et puis vous avez un plus petit chiffre en bas qui vous donne cette fréquence cardiaque de repos. Ou bien là, vous pouvez faire ça manuellement. Vous prenez vos deux doigts, l'index et le majeur, que vous mettez au niveau de votre poignet, sur le bord externe, le long de la colonne du pouce. Souvent, on le met un peu au milieu ou pas comme il faut.
D'accord.
Vous comptez 30 secondes.
Je sens rien, moi, c'est normal. Ah,
c'est que vous n'êtes pas très délicate.
Je ne suis pas très concentrée. Allez, continuez.
Sur 30 secondes, vous sentez le nombre de pulsations que vous avez sous vos doigts. Vous le multipliez par deux et vous avez la fréquence cardiaque de repos.
Bon, c'est super. Une fois qu'on a ce chiffre, Jimmy, on en fait quoi en
Alors,
fait
quand vous êtes sportif, à mon avis, ça ne vous concerne pas, Mélanie. Cette fréquence cardiaque, elle est très lente. Ça veut dire que vous avez un cœur qui est plutôt musclé, en bonne santé, puisqu'il va pomper assez efficacement.
Ouais, moi, je suis aux alentours de 70, en réalité, je le sais, c'est
70,
pas bon.
70, c'est pas mal. Et des études montrent que si votre cœur bat plus vite au repos, au-delà de 80, voire 90 par minute, vous êtes à plus de risque d'avoir des maladies cardiovasculaires et de faire une mort subite. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir,
merci,
je vous rassure.
Jimmy,
mais ça veut dire malgré tout que cette fréquence cardiaque de repos, elle a un impact. Et donc, si votre cœur bat un peu trop vite, allez voir votre médecin pour refaire le point.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va prendre une autre question d'auditeur qui nous a été envoyée cette fois-ci par Sylvie dans le Vaucluse. Elle nous a écrit, Jimmy, pour nous demander la chose suivante. Je vous lis son message. On est tous sous couvre-feu à 18h désormais. Ça change quoi franchement par rapport à 20h? Il ne valait pas mieux tous nous reconfiner si on veut vraiment en finir avec ce satané virus? Alors Jimmy, le couvre-feu à 18h, est-ce qu'on a déjà d'ailleurs évalué son efficacité finalement? Parce qu'il y a eu des départements qui nous ont précédés avant cette généralisation. Est-ce qu'on sait?
Tout d'abord, il faut dire que c'était une mesure nécessaire. Est-ce qu'elle sera suffisante? C'est pas sûr. 18 heures, c'est lié au fait qu'on va moins circuler. Quand on circule moins, le virus circule un peu moins, en fait. C'est pas le virus qui circule, c'est nous qui le faisons bouger. Alors, dans les régions où ça a été testé, où ça a été mis en place avant que ce soit de façon généralisée, ouais. Eh bien, on s'est rendu compte que le virus progresse un peu moins vite. Mais c'est-à-dire qu'il progresse quand même. Et donc, effectivement, peut-être qu'il aurait fallu confiner plus sévèrement, mais il y a un arbitrage entre l'économie, le social et le sanitaire. Et donc, il va falloir encore attendre quelques semaines, puisqu'on est sur un plateau plutôt élevé, 15 à 20 000 contaminations par jour. Donc,
attention. Et donc, on n'est pas à l'abri, Jimmy, d'un troisième confinement. C'est ce qui se murmure, d'ailleurs. Hein. C'est quand même ça le plus efficace, non?
Le problème, oui, c'est la mesure la plus efficace, mais c'est celle qui va coûter le plus cher en termes d'économie et de tout ce que ça va entraîner à côté. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux épidémies actuellement. La première, celle de coronavirus classique, et puis celle du variant, notamment anglais, qui, à mesure qu'il va progresser, va prendre le dessus sur l'autre virus,
et
avec un virus
plus contagieux. Hein,
ouais. Et donc, à ce moment-là, l'épidémie peut être hors de contrôle, comme ça a été le cas en Irlande et au Royaume-Uni. Quand ce variant est majoritaire, on n'arrive plus à contrôler les cas et donc on est obligé de confiner.
D'accord. Et est-ce que justement on est inquiet sur les variants? Vous disiez on a une idée sur le fait qu'ils deviennent majoritaires ou pas, parce que vous avez parlé de l'anglais, mais on nous parle du sud-africain, du brésilien, on en est où? On ne sait pas trop. On séquence pas tant que ça encore.
On séquence pas suffisamment. On dit qu'il serait à 1,4% le variant anglais sur le territoire, 1,4% des PCR positifs. Ça veut rien dire. Dans certaines régions, c'est peut-être beaucoup plus. Et attention, on vous dit 1,4, ça paraît pas beaucoup. Si la semaine prochaine on est à 3%, c'est la catastrophe, c'est le début de l'exponentielle. Donc attention avec ces chiffres qui sont faussement rassurants. Soyez prudents et encore un peu de patience.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme vous venez l'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, comme Aymeric ou Sylvie, question santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, pas d'hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous, docteur Yannick Rouache. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital privé d'Antony et avec vous, on va s'intéresser cet après-midi aux petits et gros tracas, je vais dire, de la sphère urinaire, au sens large, la sphère pelvienne chez la femme. Et on va démarrer donc par un sujet qui n'est pas du tout glamour, hein, faut dire ce qui est, mais qui est très important, les fuites urinaires. Ça concerne combien de femmes, si on a une idée, en France à peu près?
Alors effectivement, c'est un problème très fréquent, l'incontinence urinaire. Si on rapporte un peu à la population générale les études qu'on a, nous, sur les problèmes d'incontinence, on peut estimer qu'il y a à peu près 5 millions de femmes en France qui ont des problèmes d'incontinence urinaire. Ouais.
À quel âge ça survient en général, ce type de soucis?
Alors ça dépend du mécanisme. Disons que c'est pas rare de voir en consultation des patientes qui ont 30, 35, 40 ans, qui ont des problèmes d'incontinence urinaire, notamment des problèmes à l'effort. Mais globalement, le plus gros des patientes, c'est entre 48 et 52 ans, c'est autour de la ménopause. C'est là qu'on voit apparaître le principal problème.
Ah non, c'est quand même des femmes assez jeunes, parce qu'on pense à l'incontinence urinaire, un peu comme avec
c'est
la prostate,
mamies,
c'est un peu exactement des personnes âgées,
ça.
Donc c'est assez jeune. Ça veut dire que malgré tout, qu'il faut encourager les femmes à oser aller venir vous voir. Et vous dites tout à l'heure, incontinence à l'effort, ouais. Incontinence urinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'incontinence urinaire?
Exactement, il y a plusieurs types d'incontinence urinaire. Globalement, il y a deux types d'incontinence urinaire. Le plus fréquent, c'est chez les jeunes, c'est l'incontinence urinaire d'effort. L'incontinence urinaire d'effort, c'est le fait de perdre des urines lorsque l'on fait un effort.
Pas un marathon.
De façon
hein.
involontaire. Alors non, pas un marathon. La plupart du temps, c'est quand on tousse, quand on éternue au départ, quand c'est des efforts un peu brutaux comme ça. Et puis parfois, c'est juste quand on marche, quand on va un peu vite. Et là, c'est un peu plus embêtant.
Et le deuxième type, du coup, ça c'est à l'effort. L'autre,
alors,
c'est
ça,
par
c'est...
urgenturie, je
Exactement.
Crois. C'est quoi ça? Kézako, urgenturie.
L'urgenturie, c'est le fait d'avoir une envie impérieuse, urgente, d'uriner, qu'on n'arrive pas à retenir. Donc on est dans la rue, on a envie de faire pipi, on cherche des toilettes, et on n'a pas le temps d'y arriver, donc il y a une petite goutte qui part. Classiquement, typiquement, c'est la femme qui fait ses courses, qui rentre chez elle à la maison, qui met la clé dans la porte, et qui a tout de suite une envie pressante, qui n'arrive pas à se retenir, et qui a des fuites, ou quand on met les mains sous l'eau, ou quand on entend de l'eau couler. Tout ça, c'est des choses qui excitent la vessie, et quand la vessie est un peu irritée, un peu instable, ça entraîne ses fuites par urgenturie.
Alors, c'est pas bien de raconter le secret médical de Mélanie Gomez, mais bon, c'est encore une autre histoire. Alors, pourquoi est-ce que, justement, on aboutit à de l'incontinence urinaire? C'est quoi le mécanisme?
Alors, il y a donc deux types d'incontinence urinaire, l'effort et l'urgenturie. Les deux ont des mécanismes complètement différents. Les fuites à l'effort, c'est des fuites qui sont liées au fait que le périnée est fatigué. Le périnée,
à cause de la grossesse, par exemple.
Ouais, notamment à cause de la grossesse, mais pas que. Mais effectivement, la grossesse est un facteur prédisposant. C'est le fait que donc, les muscles du périnée, qui sont censés soutenir la vessie et le canal de l'urètre, sont un peu relâchés, un peu abîmés. Et du coup, lorsqu'on fait un effort, au lieu d'être soutenu par ces muscles, la vessie et l'urètre sont un petit peu lâches et ça entraîne des fuites. Ça, c'est l'effort. C'est à peu près la moitié des fuites qu'on rencontre en consultation. L'autre moitié, c'est donc l'urgenturie.
On dirait un plombier hein, qui nous parle, c'est la moitié des fuites, c'est ça, c'est l'effort.
Alors j'ai rajouté consultation quand même. Bon, alors l'autre moitié, c'est des fuites par urgenturie donc. Et ça, c'est plutôt lié à des phénomènes qui ne sont pas liés exclusivement musculaires comme à l'effort, mais c'est plutôt des phénomènes de vieillissement d'une part, parce que le mécanisme neurologique de la vessie vieillit un petit peu avec l'âge. Et puis surtout à des phénomènes hormonaux. Parce que quand on est périménopausé ou ménopausé, on a moins d'hormones et du coup la vessie se dérègle un petit peu et les envies deviennent un peu plus anarchiques. Au lieu d'avoir une vessie qui se remplit et d'avoir envie quand elle est pleine, on a des envies qui arrivent un peu n'importe comment et qui sont parfois irrépressibles.
Et justement, quand on a envie de faire pipi, est-ce que le fait de se retenir, parce que parfois on est au travail où il n'y a pas de toilette à disposition...
Ma maman, quand j'étais petite, elle me disait toujours « il ne faut pas se retenir, il ne faut pas se retenir ».
Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que ça peut aboutir par la suite à une vessie moins tonique, moins efficace?
Alors, si on parle des enfants, le fait effectivement de leur dire de ne pas se retenir, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a jamais vu...
Ah, donc ma maman avait raison.
Elle avait raison.
Merci maman.
On n'a jamais vu en consultation, et ça c'est un peu des idées reçues, on n'a jamais vu des infections urinaires chez des enfants qui vont faire pipi dans les toilettes publiques.
Oui, par contre, c'est des bêtises.
On voit vraiment des jeunes filles ou des femmes qui ont des problèmes parce qu'elles se sont retenues quand elles étaient jeunes. Et que du coup, ça a déréglé un peu la vessie et ça peut donner effectivement ce genre d'urgenturie.
D'accord. La grossesse, on en a parlé, mais est-ce qu'en vieillissant, c'est pas finalement un phénomène assez normal? Jimmy le disait tout à l'heure, on a une idée de la dame un peu âgée qui va avoir des fuites, qui va mettre des couches ou des serviettes pour retenir tout ça. C'est pas banal, c'est pas quelque chose de banal. Il faut vraiment consulter parce qu'il y a des solutions, mais on a l'impression que c'est un passage obligé, quoi.
Alors non, c'est pas un passage obligé, c'est ça le...
Il y a
ça,
des mamies de, je sais pas, 100 ans, centenaires qui vont pas du tout avoir de fuite, c'est possible?
Bien sûr, il y a des femmes qui n'auront jamais de problème, ça dépend, il y a des caractères individuels, des périnées qui sont plus ou moins toniques, mais effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très fréquent, certes, mais que c'est pas normal.
Mais pourquoi c'est aussi tabou alors? Parce que c'est si c'est fréquent que ça?
Alors c'est tabou, déjà parce que ça rappelle le vieillissement, donc on a l'impression d'être vieille quand on a des fuites urinaires, même si on a 50 ans. C'est tabou aussi parce que c'est des fonctions excrétoires, hein, les selles, les urines,
oui,
c'est pas très glamour,
c'est
pas super sexy. Et puis c'est tabou aussi parce que, justement, comme vous dites, on voit des pubs pour des protections partout, il y a des linéaires de protection dans les supermarchés.
Énorme, il y en a partout, c'est vrai.
Et donc on a l'impression que c'est normal, donc on se dit, j'achète mes protections et puis voilà. Quoi.
Est-ce qu'avec la génération de femmes, mais d'hommes, qui se mettent à faire du sport, à courir beaucoup, est-ce que... On peut craindre d'avoir plus d'incontinence urinaire.
C'est pour ça que vous ne courez pas, vous d'ailleurs. Hein. Je vois, vous les pointez du doigt, ces coureurs-là.
Je prends soin de mon périnée. Je ne veux pas d'incontinence plus tard. J'aurai déjà la prostate. Mais est-ce que le sport, a un peu la course à pied régulière répétée.
C'est très à la mode quand même, le running. Hein, ouais.
Alors le sport, c'est bien. Ouais. Ça, c'est la base.
Ça, on ne dira jamais le contraire.
Et il ne faut pas dire le contraire et il ne faut pas inciter à ne pas faire de sport. Par contre, c'est vrai que tous les sports d'impact, quand on court, quand on fait du crossfit, quand on fait de la zumba, tous les trucs un peu à la mode, ça impacte sur le périnée et c'est délétère et ça provoque des problèmes de continence. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter. Au contraire, il faut continuer, il faut essayer d'adapter un peu ses mouvements. Et puis surtout, il faut muscler son périnée parallèlement.
Très bien, docteur Rouach, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, notre invité en studio, c'est vous, docteur Yannick Rouach. Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital privé d'Antony. Et on parle des fuites urinaires. On rend presque le sujet sexy, hein, franchement, avec vous. Cet après-midi, un sujet donc féminin. On l'a dit, c'est un sujet encore tabou en 2021. Pourtant, vraiment, il est important d'en parler à son médecin, car des solutions existent. Et on va les détailler avec vous. À partir de quand, d'ailleurs, il faut en parler, finalement? Parce que allez, une petite goutte quand on tousse ou quand on a trop rigolé, ça peut arriver à tout le monde. À partir de quand on se dit, tiens là, ça devient sérieux, il faut que j'aille voir, je ne sais pas qui d'ailleurs, le généraliste, l'urologue directement.
Alors si c'est un épisode comme ça occasionnel, très unique, parce qu'on s'éclate de rire et qu'on a des pertes urinaires et que ça arrive une fois tous les 36 mois, c'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Non, le problème c'est la récurrence, c'est que si on commence à adapter un peu son rythme de vie, à ne pas vouloir aller sortir, courir, devoir porter des protections ou des choses comme ça, évidemment, il faut en parler. Le premier contact, ça reste toujours le médecin traitant. Le médecin traitant, parce qu'il y a besoin de certains examens parfois pour éliminer des diagnostics différentiels. On peut avoir une infection urinaire et avoir du coup des fuites urinaires et ne pas se rendre compte de l'infection. Du coup, il fait une analyse d'urine, il se rend compte de ça et ça règle le problème. Donc c'est d'abord le médecin traitant et puis très facilement il orientera vers l'urologue.
Et justement, imaginons Mélanie qui vient vous voir pour des problèmes d'incontinence urinaire.
C'est gratuit ça Jimmy, c'est pas gentil.
C'est pour contextualiser, les auditeurs
on
ont besoin un peu de se projeter.
On parlera de votre prostate après puisqu'on a un urologue sur le plateau.
Exactement, hein. Ce sera mon tour. Je suppose que vous allez lui poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques justement qu'on va poser à quelqu'un qui a une incontinence urinaire?
Alors ouais, déjà faire le diagnostic de l'incontinence urinaire, vérifier que ce n'est pas des pertes vaginales, parce que parfois c'est difficile de faire la part des choses.
Ah oui.
Mais donc déjà ça, et puis ensuite, c'est très vite pour nous, c'est d'arriver à faire la part des choses entre ce qui est lié à l'effort, et donc à la musculature à remuscler, et ce qui est lié à l'impériosité, l'urgenturie, Et à ce moment-là, stabiliser la vessie, ça sera notre principale préoccupation.
Alors ça fait partie un peu de l'interrogatoire. Il y a aussi l'examen clinique, la consultation. Ouais. Vous allez toucher, regarder ce qui se passe vraiment dans la zone qui nous intéresse. Mmh. Très concrètement, sans tabou, vous faites quoi pour vérifier d'un point de vue technique ce qui se passe ?
L'examen clinique, c'est un examen gynécologique essentiellement, qui consiste d'une part à observer et apprécier la trophicité du vagin, l'état du vagin, est-ce qu'il est assez hydraté, est-ce qu'il y a assez d'hormones ? Vérifier qu'il n'y ait pas d'éléments de prolapsus associés, parce qu'on en parlera plus tard, mais ça peut effectivement être associé à cela. Et puis ensuite, demander à la patiente de tousser, et souvent on objective une fuite à la toux, avec le canal de l'urètre qui est un peu trop mobile, on voit qu'il n'est plus assez maintenu, et on peut, avec les doigts, maintenir le canal de l'urètre, comme si on renforçait un petit peu la musculature, et on voit bien qu'on arrête les fuites qui sortent à la toux.
Est-ce qu'un diagnostic précoce qui aboutit à un traitement précoce permet d'avoir un meilleur pronostic que si on laisse traîner cette fuite urinaire pendant de nombreuses années jusqu'à un stade où on ne peut plus faire grand-chose ?
Alors ça, c'est certain. Comme pour tout en médecine, plus tôt on consulte, mieux c'est. Disons que les fuites urinaires, quand elles sont débutantes, quand elles sont occasionnelles et qu'elles ne sont pas trop impactantes dans la vie de tous les jours, déjà on a le temps de les traiter, parce que ce n'est pas trop invalidant. Et puis ensuite, on peut les traiter avec des petits moyens, de la rééducation, de la kinésithérapie à la maison, des exercices, et des choses qui n'imposent pas des traitements chirurgicaux, qui eux s'imposent quand les fuites deviennent majeures.
Vous l'avez un petit peu abordé, mais donc la rééducation du périnée, on ne va pas détailler, on a fait une émission sur le sujet la semaine dernière, mais c'est le premier traitement de ce problème-là ?
Pour les fuites urinaires à l'effort, où l'enjeu est lié à la musculature périnéale, c'est le premier traitement.
On peut régler le problème qu'avec ça.
Et souvent, on règle le problème. On considère que c'est pratiquement 60% des cas qui sont réglés qu'avec la kiné, chez le kiné ou à la maison. On peut faire aussi des exercices.
Et si jamais ces exercices de rééducation ne fonctionnent pas suffisamment, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Est-ce qu'il y a des médicaments qui existent ? Ou est-ce qu'il y a des règles hygiénodiététiques qui font qu'on peut essayer de limiter l'impact de ces fuites urinaires ?
Ne plus boire du tout, Jimmy, c'est fini. Et au moins, c'est réglé.
Ah oui, on ne fait pas pipi. Donc.
Alors, quand on parle des fuites à l'effort, c'est un problème musculaire. Il y a effectivement des règles d'hygiène et diététique qui peuvent s'appliquer, mais si la kinésithérapie n'est pas efficace, alors il n'y a pas de traitement médical. On parle d'un soutènement, d'une
nécessité
de soutenir.
Traitement local, peut-être, je crois. Il y a quand même des traitements locaux à base d'hormones dont vous m'aviez parlé.
Les traitements locaux à base d'hormones, ils sont parfois utiles, mais ils sont surtout utiles dans le cadre des vessies déréglées, les vessies par urgenturie. Elles manquent d'hormones, alors on leur apporte des hormones et ça les stabilise et ça calme les fuites. Quand on parle de fuites à l'effort, si la kiné n'arrive pas à remuscler,
c'est la chirurgien, et vous êtes chirurgien, ça tombe bien. Donc expliquez-nous ce qu'on peut faire justement en termes d'intervention chirurgicale pour régler, réparer ces fuites urinaires.
Alors le principe, c'est comme la kiné, c'est de remuscler, de soutenir le canal de l'urètre. Et à ce moment-là, quand la kiné échoue, on applique, on met en place une bandelette sous-urétrale.
Elle est faite de quoi, cette bandelette
de tissu, c'est du prolène, c'est une substance bien absorbée qu'on connaît déjà depuis très longtemps dans les matériaux prothétiques. Et qu'on met en place sous anesthésie, donc c'est soit une anesthésie générale, soit une rachianesthésie, le bas du corps.
Et par où vous passez pour insérer cette bandelette ?
Par le vagin, on fait une petite incision dans le vagin, on glisse la bandelette, la femme se réveille, elle fait pipi, et elle rentre à la maison. En général, c'est de la procédure ambulatoire. On reprend les activités normales, la vie tous les jours dès le lendemain, et les activités physiques et sportives, par contre, il faut attendre 3 semaines.
Et vous avez quoi comme taux d'efficacité de ce que les patientes, elles sont satisfaites après l'intervention ?
Ouais, alors ça marche très bien. Pour le coup, c'est une chirurgie qui est mini-invasive, qu'on fait depuis 20 ans maintenant, et qui a un taux de succès d'environ 95% quand c'est bien sélectionné. Ça veut dire que toutes les patientes ne seront pas éligibles à la pose d'une bandelette, mais lorsqu'elles sont bien sélectionnées et qu'elles résistent à la kiné, ça marche très bien.
D'accord. Et tout ça, c'est pris en charge, ce genre d'intervention, pour les femmes qui en ont besoin, il n'y a aucun souci, l'assurance maladie prendra en charge. Et là, vous dites la reprise de l'activité normale, fini les couches, tout ça, c'est dès le lendemain, quoi.
Ouais, c'est souvent dès le lendemain, c'est assez spectaculaire. Quand l'indication est bien posée, ça change la vie.
Docteur Ouach, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et nous accompagne cet après-midi. C'est le docteur Yannick Roach, vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital privé d'Antony. Et avec vous, on s'intéresse aux faiblesses du plancher pelvien au féminin. On vient de parler en détail des fuites urinaires. Et justement, parfois, elles sont causées par ce qu'on appelle un prolapsus. Alors nous, dans le langage, on va dire plus vulgairement, on appelle ça la descente d'organes, qui n'est pas très sexy non plus. On comprend à peu près ce que ça veut dire, descente d'organes. Le terme est assez bien imagé, mais physiologiquement, ça correspond à quoi ? Quels organes, justement, peuvent descendre ?
Alors, physiologiquement, c'est un petit peu comme les fuites à l'effort. C'est-à-dire que l'hyperpression de l'abdomen sur le périnée, sur les muscles qui soutiennent le bassin, peuvent distendre les tissus et décrocher un petit peu les organes que sont la vessie, l'utérus et le rectum. Donc, c'est les organes du petit bassin qui peuvent se décrocher et qui peuvent, par gravité, descendre et faire issue par le vagin.
Ouais. Issue, ça veut dire qu'elle peut vraiment sortir par là.
Alors, ouais. C'est pas la vessie qu'on voit par exemple sortir par le vagin, mais c'est la vessie qui tombe et qui pousse la paroi intérieure du vagin.
Vous m'avez dit quand même, en préparant l'émission, que ça vous est déjà arrivé de voir une vessie qui sortait par un vagin.
Alors bien sûr, on voit parfois des issues par le vagin, des boules qui sortent par le vagin. Mais c'est le vagin qui est refoulé par la vessie ou par le rectum à ce moment-là.
D'accord. Bon, on va essayer de donner des solutions pour surtout pas en arriver là, Jimmy.
Tout ce dont on a parlé, l'incontinence ou le prolapsus, c'est finalement quelque chose qui touche un peu plus les femmes que les hommes pour des raisons anatomiques. Donc les hommes sont un peu épargnés de tous ces petits problèmes.
Oui, complètement. Le prolapsus, alors il peut y avoir parfois des prolapsus rectaux chez les hommes, mais c'est très, très particulier. Mais le prolapsus, c'est une pathologie féminine exclusivement. L'incontinence également. L'incontinence, l'anatomie de l'homme fait que le canal de l'urètre est beaucoup plus long, fait que la musculature est beaucoup plus importante, fait que la prostate empêche aussi les fuites urinaires.
Puis il ne porte pas de bébé jamais, donc le plancher pelvien morfle moins peut-être quand même.
Effectivement, est plus préservé. Donc non, il n'y a pas d'incontinence urinaire chez les hommes, sauf après chirurgie ou dans des circonstances très particulières, mais ce n'est pas la même pathologie.
Comment on sait qu'on a une descente d'organes? Alors en dehors des cas extrêmes où il y a la vessie qui sort par le vagin, je pense que là on s'en rend compte à peu près, mais sinon, qu'est-ce qu'on ressent dans son corps? Comment on peut avoir une idée que c'est peut-être ça qui est en train de se passer?
Alors ça dépend du stade, effectivement. Quand c'est débutant, quand la descente n'est pas visible et qu'on ne voit rien qui sort par le vagin, on peut s'en rendre compte parce qu'on a des difficultés à uriner. Ça peut gêner la miction, ça peut entraîner ce qu'on appelle une dysurie, donc le besoin de pousser pour uriner. Ça peut entraîner des besoins anormaux et des urgenturies, comme ce dont on a parlé. Et ça peut entraîner aussi une pesanteur pelvienne. On sent, en fin de journée notamment, quand on a marché dans la journée et qu'on arrive en fin de journée, un poids, une pesanteur dans le vagin, qui est un petit peu anormal et qui impose de consulter. Et puis quand c'est extériorisé, on s'en rend tout de suite compte. Là, pour le coup, on voit une boule qui sort par le vagin.
Est-ce qu'on a des facteurs de risque identifiés qui font que certaines femmes vont faire plus de prolapsus que d'autres?
Oui, c'est tous les facteurs d'hyperpression. C'est les femmes qui toussent de façon chronique, c'est les femmes qui sont en surpoids. C'est les efforts physiques importants, c'est les haltérophiles, c'est parfois aussi les anorexiques, paradoxalement, parce que ça relaxe un petit peu le périnée et du coup les tendons sont beaucoup plus lâches et il y a beaucoup moins de maintien des organes. Mais c'est tout ce qu'on peut imaginer qui entraîne une hyperpression sur le périnée, sur le bassin.
Alors si on ressent l'un des symptômes dont vous venez de parler, que ce soit cette sensation de pesanteur, de poids en fin de journée, ou des difficultés à la miction, etc. Donc si on pense qu'on a peut-être un début de descente d'organes, qui on court tout de suite voir l'urologue, le médecin traitant peut déjà gérer dans un premier temps, comment ça se passe?
Pareil, toujours le médecin traitant.
C'est une urgence ou pas, une urgence vitale?
Alors, toujours le médecin traitant dans un premier temps, c'est lui qui fera le point et qui éventuellement orientera vers un spécialiste. Et puis ensuite, la consultation avec l'urologue. Est-ce que c'est une urgence? Alors, peut-être
psychologique. Quand on attend honnêtement descente d'organes, on se dit vite, il faut aller aux urgences. Alors, mais c'est pas
y a
forcément
pas de caractère
ça.
D'urgence. Il n'y a pas de caractère d'urgence parce qu'il n'y a pas de risque vital. Il ne va pas se passer grand-chose si ce n'est que c'est impressionnant et que moralement, c'est compliqué. Ça peut être d'autant plus compliqué que parfois, on entend presque un craquement, donc on fait un effort violent et qu'on voit une boule sortir. Donc là, pour le coup, très inquiétant, mais en pratique, non, c'est pas urgent.
J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, mais j'ai vu quelques hommes avoir des prolapsus rectaux. Est-ce qu'on peut imaginer, quand ça descend, essayer de le faire remonter soi-même? Ça paraît tout bête, mais mécaniquement, dire on fait rentrer ça à l'intérieur, ou mieux vaut ne pas toucher?
Ça, c'est une question de médecin. Moi, ça me serait jamais venu à l'idée de dire.
Il y a un truc qui descend, on veut le remettre à l'intérieur, c'est un peu intuitif.
Moi, je touche pas vraiment le docteur direct.
Alors non, il a raison. C'est assez fréquent. C'est assez fréquent, c'est-à-dire que parfois, on attend très longtemps avant de consulter. On a parlé de tabou pour l'incontinence urinaire, c'est pareil pour le prolapsus. Et parfois, ça nécessite même des manœuvres qu'on appelle des manœuvres d'exonération, c'est-à-dire que les femmes, pour uriner, doivent mettre la main dans le vagin, refouler la vessie pour permettre aux urines de passer.
J'ai chaud.
Et pareil pour les selles. Pareil pour les selles, il faut parfois remettre le rectum en place pour pouvoir exonérer.
Je vais faire confiance à l'urologue. Si un jour ça m'arrive, franchement, je préfère. Hein, je préfère vous confier tout ça. La réponse thérapeutique est donc chirurgicale. On va y venir. Mais avant ça, est-ce qu'on peut déjà avoir des conseils d'hygiène? Est-ce que maigrir, par exemple, ou améliorer son transit? Parce que si on est très constipé, qu'on pousse souvent, j'imagine que ça n'améliore pas les choses. Voilà, est-ce que ça peut déjà améliorer un peu les choses sans forcément tout de suite aller à la chirurgie?
Oui, dans le cadre de prolapsus débutant, si ce n'est pas trop extériorisé, maigrir, effectivement, soulager le transit, faire de la kinésithérapie, remuscler le périnée, tout ça, c'est des choses qui peuvent améliorer les situations dans les cadres modérés. Parce que dans les cadres avancés, la gravité fait que de toute façon, ça ne remonte pas tout seul.
Je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est une question que les gens se posent. Non, mais est-ce que certaines pratiques sexuelles peuvent justement entraîner un prolapsus ou
pas? J'ai même pas pensé, Jimmy, à ça.
Si, parce que quand j'ai vu des patients en consultation, ils se demandent est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je suis responsable de ce prolapsus? Et on essaie ou pas de les rassurer, vous allez nous dire.
Alors là, non, on peut les rassurer. Non, on peut les rassurer. Il n'y a pas de pratique sexuelle, à moins de trucs délirants. Il n'y a pas de pratique sexuelle qui m'enfile ça.
On peut y aller,
très bien. Alors, est-ce que, vous me l'avez dit en préparant cette émission, le traitement substitutif de la ménopause peut aider à améliorer les choses aussi, ou prévenir ce risque-là, c'est ça?
Alors,
expliquez-nous de quelle
encore,
façon.
C'est-à-dire que Le traitement hormonal, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que le traitement hormonal, c'est quelque chose qui est très débattu par les gynécologues, par les oncologues, etc.
On sait, c'est le moins longtemps possible aujourd'hui, parce qu'il y a un risque éventuel de cancer.
Mais c'est vrai que, à l'évidence, la privation hormonale, quand on est ménopausé, ça relaxe les tissus, ça affaiblit le vagin, et le vagin, c'est la clé de beaucoup de choses. Donc, quand on affaiblit le vagin, effectivement, on permet à d'autres organes de tomber, à l'incontinence d'arriver, etc. Donc oui, le traitement hormonal, c'est bien. Si on ne peut pas le faire en général, au moins localisé par des ovules, par des crèmes, c'est nécessaire.
Et donc le traitement de dernier recours, enfin en tout cas celui que vous allez pratiquer, c'est la chirurgie. En quoi ça consiste? Comment est-ce qu'on fait remonter un organe et qu'on le laisse en place?
Alors c'est purement mécanique. C'est là pour le coup, il y a un organe qui est tombé, il faut le remonter.
Les bretelles.
Exactement. Et c'est tout à fait ça. C'est les bretelles.
Je savais que c'était intelligent.
C'est-à-dire que l'intervention qu'on appelle la promontofixation, c'est une intervention qui se déroule par voie stéréoscopique. On met des caméras dans l'abdomen, des instruments, et puis à l'aide de bandelettes, de deux bandelettes, comme des bretelles, on attrape la vessie, le vagin, l'utérus, le rectum, et on les accroche à des ligaments un peu solides. Pour que ça reste en place et que ça soit maintenu.
Donc on n'ouvre pas le ventre en entier, enfin, on imagine que c'est quelque chose de lourd, non, hein, c'est un petit trou dans le nombril, là, ou sur le côté.
Ouais. C'est 24 à 48 heures d'hospitalisation en général, et pareil, on récupère une activité normale.
Pour quel résultat, là aussi? Est-ce que c'est très satisfaisant? Les femmes ont plus, enfin, ça redescendra pas, je veux dire, ça reste en place, les bretelles, ou est-ce qu'il faudra y repasser sur le billard?
Vous savez, c'est comme toutes les chirurgies mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tombe, on le remet en place, donc c'est très efficace. C'est comme une prothèse de hanche, c'est des choses mécaniques, il n'y a pas beaucoup de place à l'aléa.
Et satisfaction, j'imagine, des femmes, elle doit être immense, non?
Ouais, ça marche bien.
Les retours, elles vous disent quoi, les femmes?
Que ce soit la bandelette pour incontinence ou les bandelettes pour prendre de fixation, c'est des choses qui, effectivement, changent un peu la vie, parce qu'on retrouve une vie normale, ce qu'on n'avait pas eu depuis longtemps.
Merci beaucoup, docteur Rouache, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Bonne continuation à vous. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore et en présent. À présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Focus sur l'asthénie. Savez-vous ce que c'est? En fait, il s'agit de la fatigue, ça c'est plus connu, mais quand elle dure, elle s'installe. À quoi cela peut être dû? Comment en venir à bout? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
L'asthénie, j'ai jamais entendu parler de ça.
L'asthénie? C'est quand on est faible.
La fatigue par rapport au Covid.
Je sais pas si c'est un manque de sucre.
Je dirais que c'est quelque chose lié au poumon, des difficultés pour respirer, la fièvre.
On est très fatigué, on n'est pas capable d'assumer sa journée, même de se lever. Et le corps lâche, en fait, il est vidé et il a besoin que de se reposer.
Et c'est pas quelque chose qui se soigne forcément. Peut-être des traitements de rééducation, de sport, des choses comme ça.
Il faut simplement se reposer.
Quand on sent qu'on n'est pas bien, on doit manger un sucre.
Bon, manger un sucre, se reposer, oui, ça peut marcher dans certains cas. Jimmy, justement, l'asthénie, finalement, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est? Comment on différencie ça, finalement, de la fatigue qu'on peut tous avoir de temps en temps, quoi?
J'avais jamais remarqué, mais c'est vrai qu'on aime bien, nous, les docteurs, utiliser des termes compliqués pour un truc hyper
ça
simple.
Ça fait chic, hein.
Le dire fatigue, on dit il souffre d'asthénie tout d'un coup. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais d'où ça vient ce mot asthénie? Parce que pour moi, c'est du langage courant, mais en fait, c'est quelque chose
pour
que
nous,
les gens ne connaissent
peu,
pas. Un peu pompeux. Ça vient du grec sthénie, qui veut dire force et rigueur, et le manque de. Donc, c'est le manque de force, le manque. D'être vigoureux. Alors en fait, il faut distinguer deux choses. La fatigue classique, c'est celle qui va être normale, naturelle, après un effort physique.
Je suis fatigué.
Exactement, un effort intellectuel qui va céder après une période de repos avec l'asthénie qui va être considérée comme anormale, pathologique, lorsqu'elle va persister alors que vous êtes reposé et qu'il n'y a rien qui pourrait expliquer cette sensation de fatigue.
Alors Jimmy, être fatigué, surtout en ce moment, c'est quelque chose d'hyper fréquent, voire limite normal dans le contexte actuel, non?
Oui, alors c'est un motif qui est hyper fréquent en médecine générale. C'est 10 à 25% des personnes qui consultent dans la consultation dire « au fait, je suis fatigué ». Et c'est un peu moins de 10% des gens qui ne viennent uniquement que pour ce motif.
Quand même,
ils n'ont rien d'autre et ils se sentent fatigués. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent, encore plus, vous l'avez dit Mélanie, avec ce contexte de Covid.
Alors c'est quoi les causes de l'asthénie, cette fatigue qui, encore une fois, est anormale, hein? Je ne dis pas on a passé le bac, on est fatigué, ou on a couru, on est fatigué.
Exactement, alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est un peu, il y a un champ mais tellement énorme dans la fatigue.
Large.
Alors ça peut être une fatigue psychologique. Dans cette période actuelle, on comprend qu'avec
les
restrictions,
virus,
le mode de vie, on se sent fatigué émotionnellement. Mais ça peut être vraiment physique, ça peut être lié à des pathologies. Dans ces cas-là, vous avez d'autres symptômes physiques. Et puis ça peut être aussi lié à des médicaments, il y a des traitements qui fatiguent authentiquement. Et puis vous avez le droit aussi d'avoir des problèmes hormonaux qui vont aussi vous fatiguer avec une thyroïde qui marche moins bien.
On pourrait en citer plein comme
ça. Donc en fait, c'est un peu un éventail un peu catalogue.
J'imagine que on traite en fonction de la cause. Mais déjà, peut-être pour nous aider, Jimmy, un truc très pratique. Quand est-ce que finalement, quand on est fatigué, il faut consulter, parce que bon, être fatigué, vous dites on se repose, ça passe, mais quand est-ce qu'il faut vraiment consulter?
Alors,
quand
je
ne
vais pas faire peur aux auditeurs, mais j'ai souvenir d'une histoire comme ça, d'une dame qui avait une gastro-entérite plutôt banale.
Ouais.
Elle est maman, elle a 3 enfants, et pendant la consultation, elle me dit, mais docteur, je suis vraiment fatiguée. Elle dit, j'ai l'habitude de me lever tôt, m'occuper des enfants, en plus elle était mère isolée, elle les élève seule. Mais là, vraiment, je n'arrive plus à faire à manger. Je suis crevé, le moindre effort me demande quelque chose de surhumain. Et ben, en allant un peu plus loin, ben, on s'est rendu compte qu'elle avait une pathologie chronique. On a découvert une maladie du sang.
Ah oui.
Donc c'est vraiment la fatigue qui vous empêche de pratiquer une activité normale, d'avoir un mode de vie, un fonctionnement normal.
D'accord. Et ça, c'est pareil si on a ce manque d'envie, même que ce soit juste psychologique, hein, parce qu'elle avait une maladie du sang, mais alors, la dépression, typiquement, ça fatigue.
Dans la fatigue, c'est la dépression. Alors, la première chose qu'on peut conseiller aux gens, c'est déjà de bien dormir. Le manque de sommeil est un facteur classique de fatigue. N'hésitez pas à aller voir votre médecin. Si vous avez de l'anémie, vous avez des règles abondantes, vous pouvez être fatigué.
Ou une fièvre carence, associée à une fatigue, évidemment.
Exactement. Ouais. Vous avez le droit d'avoir la mononucléose qui va vous fatiguer. Donc, évidemment, il n'y a pas forcément quelque chose de grave, mais quand les symptômes persistent, allez voir votre médecin, il vous examine et un petit bilan. Et on peut déjà, dans un premier temps, savoir un peu ce qui se passe.
Merci beaucoup. Vous êtes fatigué, Jimmy, en forme?
Comme tous les jours, mais j'ai 3 enfants. Je crois que vous aussi, vous êtes fatigué.
Oui, mais moi, j'en ai que 2, mais c'est bon, c'est pas grave. Merci, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission séance. Allez, je me lâche. Jimmy, vous êtes toujours là?
Non, c'est une séquence.
Ouais.
Je suis désolée,
mais
reprendre,
c'est pas une séquence.
Séquence.
Oui, d'accord.
Vous avez peur que ce soit une séance de psy ou de sexologie,
non.
Jimmy?
En 5 minutes, ça serait rapide, Catherine. Alors justement,
oui,
on a une question
c'est
pour vous.
C'est l'éjaculation précoce.
C'est ça, exactement. On va s'arrêter là, je vais lire la question. Enfin non, Jimmy, parce que vous avez besoin de vous concentrer, je le sens. Vous allez tout de suite découvrir la question d'Aurore et nous la lire.
C'est pas moi qui ai buté sur un mot. Alors, je vais vous lire malgré tout la question. Depuis mon divorce, j'ai rencontré pas mal d'hommes de mon âge via des applications. Mais à chaque fois que je crois que c'est le bon, je me rends compte que j'ai affaire à des blaireaux qui ne cherchent que le sexe. Donc,
c'est
en
pas
gros,
Jimmy qui le dit, c'est Aurore. Hein,
non,
les blaireaux.
Donc en gros, dès que je leur ai donné ce qu'ils veulent, je me fais larguer. Comment se fait-il que je les choisisse aussi mal? Comment débusquer les menteurs qui font mine de chercher l'amour? Bon, Catherine, est-ce que c'est pas tout simplement propre à ces applications? On est au supermarché. On choisit, on consomme et puis on jette. C'est un peu cynique. Hein,
Je crois que ces applications, évidemment, plus que jamais, en sont l'occasion. Mais il n'y a pas que ça, puisque quand les rencontres se faisaient assez librement dans la rue, quand on pouvait sortir non masqué.
Dans les bistrots.
Dans les bistrots, dans les soirées, dans les boîtes de nuit,
dans
etc.
Tout ce qui n'existe plus.
Les bistrots.
Ça, c'était un temps d'avant. C'est dire notre
âge. On dit toujours bistrots. Hein.
Oui, dans les années 70.
Non, pas du tout. Il y a des bistrots à Paris. D'accord. Il y en a beaucoup et ailleurs.
Non, mais oui, les rencontres dans des bistrots, excusez-moi.
On dit, mais vous n'y connaissez rien, laissez tomber.
Oui,
les bistrots, c'est super.
Il y a un bistrot. Bon, on sort dans notre sujet.
Alors, Catherine.
Oui, donc évidemment que ça se faisait aussi. Le fait de. Je crois que ça, c'est un discours de toujours. Moi, je l'ai entendu quand j'étais jeune fille dans les collèges où on disait oui, il veut que sortir avec moi, c'est pas amoureux, c'est juste pour un tableau de chasse, etc. Ça a toujours existé.
Bien
donc,
sûr.
Les applications ne sont pas plus le risque. C'est un endroit où on dit vouloir avoir des relations, on dit exprimer son
on
désir.
On consomme un peu l'amour, on consomme la sexualité.
Bien sûr, ouais. Voilà. Et on le fait de façon peut-être encore plus libre parce que justement on s'est mis très officiellement sur un catalogue et que notre société le permet. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elle tombe sur ces hommes-là? Je crois que c'est aussi... on peut...
Elle a l'air de s'en vouloir. On dirait qu'elle se sent coupable, mais c'est parce qu'elle choisit mal
Bah, je pense que c'est pas qu'elle choisit mal, c'est que certainement qu'elle n'exprime pas suffisamment quel est son projet à elle et du coup, peut-être qu'on lui joue la sérénade pour simplement la croquer. Maintenant, est-ce que au passage, cette question de savoir que l'autre se abuse d'elle, c'est parce que elle-même n'est pas au rendez-vous de quand ça se joue d'en profiter elle-même. Parce qu'à partir du moment où on est avec quelqu'un, où on va avoir une sexualité avec quelqu'un et qu'on y vit quelque chose d'intense, évidemment qu'on espère que ça puisse durer. Mais si ça ne dure pas, ça fait partie des risques. Il n'y a aucun contrat qui dit « je te préviens, hein, si tu m'approches, ou si tu m'embrasses, ou si tu couches
c'est
avec
pour la
moi,
vie.
C'est pour la vie ». Donc il n'y a rien qui pourra assurer la pérennité de la relation. La seule chose que l'on puisse s'assurer, c'est d'être ici et maintenant dans quelque chose de partagé à titre d'équité. Or là, elle a le sentiment d'être comme un petit gâteau que les hommes dévorent, en oubliant qu'elle a dévoré aussi le petit gâteau qui était l'homme avec qui elle a fait l'amour.
Est-ce que ça peut commencer par faire le tri dans les profils qu'on va choisir? Je ne sais pas, si un jeune homme très musclé, torse nu, est-ce que c'est peut-être un raccourci, mais...
Oui, si on met une photo de soi torse nu déjà,
c'est peut-être un préjugé. Oh non, soyons francs, non, s'il se met torse nu, c'est qu'il cherche probablement qu'une relation
chose
éphémère.
C'est intime,
de physique, oui,
en tout cas, il parle de corps, donc évidemment, si on se met...
Elle peut-être de faire le tri, est-ce qu'elle est c'est vrai que c'est dur à dire, mais est-ce qu'elle est coupable? Vous le dites aussi.
Une appli peut-être de club de lecture, c'est plus.
C'est peut-être mieux, oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être le site, en fait, qui pose problème.
Ouais, je crois que effectivement, c'est comment on se drague les uns et les autres. S'il n'est question que de corps, si pour s'approcher, s'allumer d'une certaine manière, on se met en avant que corporellement, évidemment, qu'on a plus de chances de tomber sur ce malentendu-là, qui est de s'aimer pour le corps, de se désirer, de se rencontrer pour ce corps. Si on échange un peu plus largement et qu'on parle de soi dans son regard sur la vie, que chacun, et qu'on voit que l'autre élabore aussi, s'il n'élabore pas, on voit bien que quand même on est assez limité. Et donc, par définition, on sait qu'on va un peu dans le mur, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter.
Bon, un point positif quand même, c'est qu'elle plaît, quoi, non ? Elle pourrait pas juste voir le bon côté des choses, quelque part ?
Bah oui, elle plaît, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que les femmes sont toujours en tranquillité quant à plaire. C'est toute l'ambivalence féminine. C'est je veux absolument plaire, je veux absolument séduire, mais je ne veux pas qu'on me renvoie que je suis justement sexuellement attirante. Oui. Donc et ça, encore une fois, c'est un discours de jeune fille. C'est vraiment... les garçons ne me regardent que pour mes seins ou que pour mes fesses, tout en ayant mis tout en avant pour que fesses et seins soient visibles. C'est toute l'ambivalence. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont coupables, aucun moment. Donc il faut savoir aussi remettre de la distance, et il faut savoir aussi ne pas se sentir coupable de son corps et des élans de son corps, trouver la bonne mesure, savoir s'exprimer, savoir aussi être décevante pour l'autre, parce que bien souvent, des tas de femmes vont dans le sens du désir de l'homme parce qu'elles ont peur de passer pour des nunuches. Et alors du coup, elles se disent, bon, il ne faut pas passer pour une nunuche, il faut le vivre, mais si je ne suis pas une nunuche, il m'aimera. Et donc, du coup, elle s'en mêle les pinceaux, bien évidemment.
Merci beaucoup, Catherine, pour cet éclairage passionnant, comme toujours. Merci, on se retrouve demain. On revient demain, donc, à la même heure, sur Europe 1. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Notre camp.
Elle a changé, Zizi. Maintenant, elle est dans l'autre monde. On pense à elle très fort. Alors, prête-moi ta plume. Oui, c'est le thème de l'émission. Avec Sitting Bull. Vous savez, le sucre qui avait une
plume. Vous le faites bien sur europe1.fr. Vous pouvez voir Stéphane imiter Sitting Bull. Effectivement, je ne sais pas ce que vous faites sur votre tête.
Miss Dinguette qui avait une plume ailleurs. Mais qui l'a montré sur la scène du Moulin Rouge.
Je vous parlais de votre amie, parce que tout à l'heure, en antenne, vous me parliez d'elle. C'est Régine. Régine, une amie qui aimait aussi la plume. Et qui, contrairement à ce que vous me disiez, est toujours vivante. J'en parlerai dans mon portrait aujourd'hui.
J'étais pétrifié, mais je survivrai.
Ça s'en va bien.
Oui, très bien. On entendra ça survivante. En mieux tout à l'heure dans la bouche de Régis.
Une émission en plume, une émission tout en légèreté, mais passionnante.
On en a besoin.
Ça va chouette. Moi, je reste sur Europe 1. Jimmy aussi a hâte de vous entendre. Et donc, vous aussi, vous n'avez qu'une chose à faire, restez avec nous.